Mes très chers amis, je viens encore vous parler des découvertes inquiétantes de la science moderne, et particulièrement de l'intelligence artificielle. Très récemment, alors que j'écoutais les informations à la radio, j'entendis parler de l'intelligence artificielle, et soudain, le présentateur dit « Bien sûr, les savants ne savent pas encore s'ils vont réussir, mais cette intelligence artificielle est tout de même inquiétante, surtout si on ne sait pas comment la maîtriser. » Je n'insiste pas, mais il est incontestable que si les hommes ne savent pas comment maîtriser une intelligence qu'ils vont créer, cela est bien inquiétant. Et cela m'a fait penser aux évangiles qui sont lus pendant cette dernière période du carême et surtout aux questions qu'ils soulèvent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, dont quelques juifs, se posent toujours la même question. Jésus est-il le vrai Messie ? Cette question est curieuse, car elle remet en cause toute notre culture chrétienne. Pourtant, Jésus est bien ressuscité, et nous en avons beaucoup de preuves. De plus, ces miracles accomplis durant sa vie publique, personne n'aurait pu les inventer. Par contre, l'attitude de Jésus avant qu'il ne ressuscite Lazare peut nous étonner. En effet, Jésus pleure. Étrange. Mais tout le monde pleure autour de lui, et on peut comprendre que la nature humaine de Jésus soit peinée en voyant la peine de tout ce qui l'entoure. Mais pourquoi Jésus a-t-il attendu si longtemps avant de revenir en Judée? Il aurait pu aller plus vite, d'autant plus qu'il savait que Lazare était malade. Mais Jésus devait faire un grand miracle pour convaincre tous ceux qui se pressaient autour de Marthe et de Marie. Jésus fit ce grand miracle. Il ressuscita Lazare, mort depuis 4 jours et qui sentait déjà mauvais. Toutes les personnes présentes assistèrent au miracle. Toutes virent Lazare sortir du tombeau. Et peut-être que certaines d'entre elles aidèrent Lazare à se défaire des liens qui l'entravaient. Et nous savons que Lazare vécut encore longtemps et qu'il accompagna ensuite des chrétiens jusqu'au Sainte-Marie de la Mer, en Provence, et qu'il évangélisa Marseille. Mais revenons à la résurrection de Lazare. Jésus entre chez Marthe et Marie et demande qu'on ouvre le tombeau. Il dit très fort « Lazare, sort !» Et Lazare sortit du tombeau. Et beaucoup de Juifs qui étaient venus près de Marie et de Marthe et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais alors, pourquoi certains Juifs ont-ils refusé d'admettre une telle évidence? Pourquoi quelques-uns d'entre eux allèrent-ils trouver les pharisiens et leur racontèrent-ils ce que Jésus avait fait? Et pourquoi, surtout, les pontifes, les docteurs de la loi et les pharisiens s'assemblèrent-ils avec les Sanhédrins et dirent-ils « Que ferons-nous? Car cet homme opère beaucoup de miracles !» Ajoutant, ce qui est stupéfiant, si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Ceci, c'est dans Saint Jean, chapitre 11, versets 43-49. Nous sommes ahuris. Des hommes ont été témoins d'un miracle exceptionnel, et ils affirment que cet homme opère beaucoup de miracles. Et pourtant, ils vont prendre la décision de faire mourir l'auteur de ce miracle. On croit rêver. De plus, ces hommes, malgré l'occupation de leur pays par les Romains, avaient conservé un grand pouvoir face à leur peuple. Alors, s'ils acceptaient l'idée que Jésus était vraiment le Messie, que deviendraient-ils, eux, les chefs des Juifs, les puissants? On voit ici, nettement, vers quelles aberrations peut conduire l'amour du pouvoir et le désir de le conserver coûte que coûte. Pourtant, n'est-ce pas ce qui continue de se passer tous les jours, aujourd'hui encore, non seulement au niveau d'une politique totalement corrompue, mais même dans notre Église? Que d'apparitions de la Vierge Marie sont niées, malgré des preuves irréfutables? Que de prophéties sont refusées, même quand les événements prédits se réalisent? Et nous, individuellement, ne nous comportons-nous pas un peu de cette façon? Certes, l'Église a grandement raison d'être prudente. Il y a en effet tant d'imitateurs, tant de fous qui veulent paraître plus forts et plus intelligents que les autres. Mais lorsque les faits sont constatés et prouvés irrémédiablement, Lorsque les miracles ou les visions sont certains et reconnus par l'Église après de minutieuses enquêtes, pourquoi continuer à les refuser, à refuser de croire à la vérité? Ici, je dois faire une remarque personnelle. Depuis les années 70, certaines personnes ont partout semé le doute dans l'esprit des chrétiens. Ainsi, j'ai entendu souvent, et cela je l'affirme, des biblistes chargés de cours dans les séminaires ou ailleurs affirmer publiquement qu'ils commençaient par dire à leurs élèves que tout était faux dans la Bible. Puis, quand le vide était fait, ils reconstruisaient. Il ne faut vraiment pas s'étonner que tant de gens se soient éloignés de la religion chrétienne. Revenons à la résurrection de Lazare. Les chefs des Juifs, qui connaissaient parfaitement les Écritures, pouvaient-ils abandonner leur culture, car le Messie qu'ils attendaient devait naître à Bethléem et être de la race de David, donc d'Abraham? Or, Jésus était de Nazareth. Pourtant, il était bien né à Bethléem, et cela était vérifiable, et il devait rester de nombreux témoins, tant à Bethléem qu'à Nazareth, qui avaient connu la famille du charpentier. Alors, pourquoi les chefs des Juifs ne se sont-ils pas renseignés? Cela leur aurait été très facile. D'ailleurs, saint Matthieu l'a fait lorsqu'il écrivit son évangile. Mais, et cela est bien plus grave, ceux que l'on appelle les chefs des Juifs ne voulaient surtout pas que le pouvoir leur fût enlevé. Cette attitude des chefs des Juifs nous révolte. Pourtant, n'est-ce pas ce que nous aussi, au XXIe siècle, sommes en train de faire en travaillant sur la création de l'intelligence artificielle? Je vais vous donner un autre exemple. Je viens de trouver le texte suivant sur Internet, sur le site futura-science.com. Je cite « Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, vient de lancer une nouvelle entreprise baptisée Neuralink. Son ambition ? Créer une interface neuronale qui puisse, dans un premier temps, soigner des maladies telles que l'épilepsie et qui, à terme, permettrait au cerveau de communiquer directement avec un ordinateur afin de décupler nos performances intellectuelles. Comme le rapporte le Wall Street Journal, cet entrepreneur, Elon Musk, a créé, durant l'été 2016, une nouvelle entreprise baptisée Neuralink, dont le but est de parvenir à fusionner le cerveau humain avec les ordinateurs. Après l'espace SpaceX, les voitures électriques Tesla et le train subsonique Hyperloop, Elon Musk veut maintenant s'intéresser au cerveau. Il s'agirait en fait de créer une troisième couche numérique qui fonctionnerait en symbiose avec notre cerveau. Cette couche serait superposée au cortex cérébral, je cite de nouveau, tissu organique, aussi appelé substance grise, recouvrant les deux hémisphères du cerveau sur une épaisseur de quelques millimètres. Nous devons savoir que, je cite, le cortex cérébral est composé de différentes couches, plus ou moins nombreuses selon la région de l'hémisphère recouverte. Le cortex cérébral participe à de nombreuses fonctions cognitives, notamment, entre autres, certains sens, le langage, les actions volontaires de la motricité et la mémoire. Certes, il ne s'agit pas ici d'intelligence artificielle indépendante, mais ne trouvez-vous pas que l'on va trop loin et que l'arbre de la connaissance est en train de devenir l'arbre qui a permis le péché originel? Péché que notre civilisation est en train de commettre. Et une nouvelle question se pose. L'intelligence artificielle, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas faite lui-même? Oui, pourquoi? Et pourquoi cette intelligence artificielle nous fait-elle peur? Elle nous fait peur parce que, sans vouloir le dire, nos savants commencent à s'apercevoir que Satan, qu'officiellement il nie, est en train de s'infiltrer partout. Et nous? Quelle doit être notre attitude? Certes, nous sommes obligés de constater que Satan s'est infiltré partout, dans toutes les œuvres des hommes. Mais nous devons aussi admettre qu'il suffirait d'un cataclysme, même local, pour que toutes ces études sur l'intelligence artificielle soient détruites. Et les hommes ne sont pas Dieu. Simplement, aujourd'hui, Dieu permet tous nos excès pour juger notre foi et notre amour pour lui. Pensons à Job. Dieu permit que Satan l'éprouvât beaucoup, mais Job ne céda pas à la tentation. Dieu sera toujours vainqueur. Sur la terre, tout a une fin, mais Dieu est éternel. Et nous devons bien humblement prier pour que cessent toutes nos sottises et tous nos péchés, et nous tourner vers Dieu et lui demander pardon dans la foi et l'espérance.